Bonjour, que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je te prie que chaque personne qui va entendre ce que je vais dire là soit éclairée par ton esprit et qu'il ne juge pas, mais que simplement il réfléchisse en présence du Saint-Esprit pour savoir si ces choses sont vraies. Je te le demande dans le nom de Jésus, afin que chacun puisse être véritablement aidé. Merci mon Dieu. Amen. On va lire un texte dans Marc au chapitre 11 et à partir du verset 23. C'est Jésus qui parle et il dit « Je vous le dis, quiconque dira à cette montagne « Enlève-toi de là et va te jeter dans la mer », s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu et cela vous sera accordé. Amen. Maintenant, nous allons comprendre pourquoi Jésus nous enseigne de croire avant de voir. Les gens dans ce monde et les chrétiens qui ne sont pas initiés veulent voir pour croire. Quand je dis les chrétiens non initiés, j'entends par là les chrétiens qui savent que Jésus veut que nous croyons avant de voir, mais qui n'ont pas été enseignés du pourquoi. La foi vient de ce qu'on entend, je vous le dis souvent, la foi vient de ce qu'on entend dans le sens de du mot comprendre, la foi vient de ce qu'on comprend de la parole de Dieu. Et si vous croyez juste parce que vous avez lu, vous croyez donc intellectuellement, c'est déjà bien. C'est que vous choisissez même sans comprendre ou de croire que Jésus dit la vérité. C'est bien, cependant, Jésus a organisé son Église avec un ordre qu'il a établi lui-même. Prenez par exemple l'eunuque sur son char, il lisait mais ne comprenait pas. Et Dieu lui a envoyé quelqu'un, il a eu besoin d'un maître enseignant pour l'initier, pour lui apprendre. Ne voyez pas dans le mot « initier » quelque chose d'occulte, de mystérieux. Non, l'initiation, c'est quelqu'un qui est initié, c'est quelqu'un qui apprend quelque chose. Le vocabulaire biblique appelle les maîtres enseignants des ministres, hein, ou des ministres de la parole de Jésus. Il y a cinq sortes de ministres de la parole qui sont là pour enseigner la parole. Et là, on est sur un sujet qui est quand même très controversé. Cependant, quand même, il faut qu'on sache clairement qu'il y a cinq ministères de la parole. Apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste. Actes 6, 4, Éphésiens 4, 11. Et l'eunuque, lui, il a eu besoin simplement d'un simple chrétien qui lui-même avait été initié pour comprendre ce qu'il lisait. Il ne comprenait pas. Et Philippe était un diacre. On trouve ça dans Actes chapitre 6, verset 5. Un homme qui était chargé de servir aux tables, c'est-à-dire qui était chargé de la comptabilité, de la gestion des biens matériels de la communauté. Et bon, tout ça, c'est pour dire que l'Église a besoin d'apprendre pour comprendre ce qu'elle croit. Sinon, c'est la foi du charbonnier. Là, on est sur, comme je vous disais, sur un sujet qui est très controversé. Croire avant de voir. Est-ce qu'il y a un mécanisme qui fait que le fait de croire sans voir produit quelque chose? Ben oui, mes frères et sœurs. Comme je vous l'enseignais l'autre jour, dimanche passé, nous sommes principalement formés de deux parties distinctes. Notre partie consciente et puis notre partie inconsciente. Alors je ne vais pas revenir sur l'enseignement que je vous ai donné dimanche passé. Je pars du principe que vous l'avez écouté, je pars du principe que vous l'avez compris. Alors, notre volonté, pour qu'elle soit agissante et efficace, il faut qu'elle soit dans un certain état. Notre volonté, elle est agissante et efficace quand elle est en accord avec notre esprit, qui lui-même est toujours en accord avec le Saint-Esprit. Je vous rappelle que notre esprit, c'est l'étincelle divine qui est en nous. C'est ce qui a donné vie à notre corps. Ce qui fait que nous sommes une âme vivante. C'est l'esprit qui est en nous, l'esprit que Dieu a mis en nous. Et je vous rappelle que notre imagination est du domaine de l'esprit. Notre imagination, elle peut devenir charnelle si nous l'alimentons volontairement de choses erronées, de choses impures. Mais à la base, notre imagination, elle est aussi innocente que l'étaient Adam et Ève avant leur chute. Vraiment. Bon, je reviens à la volonté. La volonté, votre volonté, sera agissante et efficace quand elle sera en accord avec votre imagination. Par exemple, vous voudriez changer de métier, de profession. Vous le voulez, ok, bon, ça ne suffit pas. Maintenant, il vous faut l'imaginer. Il faut que vous croyiez que c'est fait, avant même que cela soit fait. Michel, qu'est-ce que tu me racontes? Ben, je vous dis ce que je viens de lire dans la Bible. Hein? Si tu crois que ce que tu as dit, si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais si tu crois que ce que tu as dit arrivera, ça te sera accordé, il faut que tu crois avant. Il faut que tu crois avant. Et croire, ben, c'est l'imaginer. Le croire fort, c'est l'imaginer, c'est pas dire « je crois ». Hein, comme Mireille Mathieu, oui, je crois, oui, oui, je crois. Il y a plein de gens qui croient, mais il se passe rien dans leur vie. Je connais des tas de croyants qui vivent des vies misérables. Parce qu'ils croient, d'accord, mais ça suffit pas. Il faut faire marcher l'imagination. Il faut que vous croyez que c'est fait avant même que cela soit fait. Si vous croyez que c'est fait, vous êtes content. Vous êtes déjà détendu, content. Vous n'êtes plus dans le stress, dans ce tourbillon. Non, vous êtes déjà content. Il ne suffit pas de dire « je crois » que c'est fait. Il faut y mettre de l'émotion pour avoir une gratitude réelle. Merci Seigneur, je l'ai. Avant de l'avoir. Et c'est là qu'intervient donc l'imagination. Éphésiens 3.20, vous avez déjà souvent prêché Éphésiens 3.20. Éphésiens 3.20 nous enseigne que Dieu va au-delà de ce que nous demandons et pensons. Dans d'autres versions, au-delà de ce que nous demandons ou imaginons, ou osons imaginer. Alors bon, je sais que les chrétiens n'aiment pas cet enseignement-là. Et vous savez pourquoi ils n'aiment pas ça? Parce qu'ils sont toujours dans la petite position de ceux qui demandent à Dieu, ils attendent tout, que Dieu fasse tout. Bon, c'est très bien, demandez, vous recevrez. Mais il est aussi dit que nous avons à commander, à ordonner, à dire aux choses, à prendre des commandes au nom de Jésus. Et vous savez pourquoi ils n'aiment pas l'enseignement que je suis en train de vous donner là au sujet de l'imagination? C'est parce que la première fois que les chrétiens ont entendu ça, je m'en souviens très bien, c'était dans les années 70-80, c'était au travers du New Age. Ah, le New Age! Voilà, diabolique, hein. Les gens du New Age ont découvert dans la Bible cet enseignement que les chrétiens avaient oublié. Les chrétiens ont oublié ça. Il ne suffit pas de prier, mais il faut s'imaginer. Tout ce que Dieu va au-delà de ce que vous demandez et imaginez, ou pensez. Et les chrétiens ne pensent pas. Ils n'imaginent pas. Comment voulez-vous remercier Dieu avec un cœur sincère si vous ne croyez pas que vous l'avez déjà reçu? Et comment voulez-vous croire que vous l'avez déjà reçu et ne pas vous réjouir déjà dans l'émotion, dans la gratitude? Hein? Bon. Alors, les gens du New Age, ils ont été les premiers à en parler, et ça a rendu cet enseignement sulfureux aux oreilles des chrétiens, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Maintenant, si les chrétiens avaient bien voulu prendre en considération les paroles de Jésus et des apôtres, ils auraient été eux les premiers à enseigner ces choses. Mais non, ils ont abandonné cet enseignement au fil des siècles, et puis voilà, ils sont devenus comme des espèces de mendiants, ils demandent toujours, ils demandent à Dieu. Et puis ils sont stressés, et puis ils sont énervés. En fait, ce sont les leaders du New Age qui ont remis cet enseignement sur l'avant de la scène. Donc ça ne peut pas être juste. Puisque c'est une doctrine du New Age, ça ne peut pas être juste. C'est comme pour le baptême pour les morts. Puisque c'est une doctrine mormone, ça ne peut pas être juste. C'est une doctrine qui date du 19e siècle. Hé, la Bible en parle. Non, c'est les mormons. C'est un truc de mormons. T'es un mormon si tu crois ça. Voilà. Voilà. Vous voyez comment ça se passe? Bon, je ne veux pas trop. Nous ne sommes ni mormons, ni New Age. Simplement, nous savons reconnaître la vérité quand elle se présente à nous dans la Bible. C'est tout. Alors, comment ça se passe pratiquement cette histoire? Eh bien, surtout en ne faisant aucun effort. En ne faisant aucun effort. Là aussi, c'est un enseignement qui gêne les chrétiens. Mais pourtant, rien n'est plus vrai, rien n'est plus juste Souvenez-vous, c'est dans le calme et la confiance que se trouve notre force. Eh bien, je ne vais pas vous donner le verset biblique, cherchez-le. C'est dans le calme et la confiance que se trouve notre force. Vous savez bien que c'est écrit. Or, on ne peut pas être calme quand on est tendu. Il nous faut donc nous détendre. Je déteste ces réunions de prière dans lesquelles les gens hurlent, les poings serrés, crispés. Père, dans le nom de Jésus, nous demandons parce que tu as promis dans ta parole. Mais c'est quoi ça? C'est une perversion de la prière. Pardonnez-moi, mais c'est une perversion de la prière. C'est pas parce que c'est la mode depuis une cinquantaine d'années que c'est juste. C'est faux. La Bible m'enseigne et vous enseigne que c'est dans le calme et la confiance. Quand on prie dans le calme et la confiance, alors tous ces gens-là disent que vous êtes morts, que vous êtes des catholiques, que vous êtes des baptistes ou que sais-je, que vous êtes morts. Vous n'avez pas l'esprit. Ah bon? Parce que quand on a l'esprit, on doit hurler. Ah, on doit hurler. Souvenons-nous, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Moi, je préfère croire la Bible que leur opinion. D'abord, quand je regarde leurs fruits, ça m'enchante pas trop, j'ai pas envie de les suivre. Alors, détendez-vous et dites la parole, confessez la parole. Vous vous détendez et vous dites, je suis calme, je suis fort. Je suis calme, donc je suis fort. Par exemple, vous vous trouvez dans une situation stressante, pleine d'émotions négatives, agressives, ça vous saute à la figure. Asseyez-vous ou allongez-vous. Si vous êtes assis, mettez vos deux pieds bien à plat sur le sol, respirez tranquillement et dites « Je suis calme, je suis fort ». Vous voyez ? Si vous faites ça, vous allez faire avorter l'émotion forte et négative. Et vous allez être maître de la situation au lieu de paniquer. Parce que c'est pas dans la panique qu'on est fort, c'est dans le calme et la confiance. Alors voilà. La clé, elle est dans le calme qu'on s'impose. Le calme, ça vient pas en même temps que l'énervation, comme disent les gitans. Hein, quand on a quelque chose qui nous énerve, eh ben, le calme vient pas en même temps. On prend le calme. On s'impose le calme. On dit à la mer et au vent, tais-toi, calme. Terminé. Je me calme. Je suis calme et je suis fort. Alors c'est ainsi que on peut atteindre notre esprit. Sinon, ben c'est la chair qui s'exprime, on est énervé, on gesticule, on lit des paroles terribles, enfin voilà. Alors que si on est calme, on peut parler à notre esprit, l'ensemencer avec de bonnes semences. Je suis calme, je suis fort. Mais ne vous y trompez pas, ça demande de la persévérance. C'est pas que ça marche pas certaines fois, c'est que simplement il faut persévérer. Vous avez mis combien de temps à grossir? Vous croyez que vous allez maigrir en deux jours? Vous avez mis combien de temps à être la personne énervée que vous êtes? Vous croyez que ça, vous allez vous calmer d'un coup comme ça parce que vous allez dire je suis calme, je suis fort? Non. Il va vous falloir persévérer pour créer une nouvelle habitude en vous. Une nouvelle habitude non pas de stress, mais de calme. Comme par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez mis 30 ans à grossir en mangeant n'importe quoi, eh ben c'est pas parce que vous allez vous priver de 2-3 repas dans la semaine que vous allez maigrir comme ça. Il va falloir persévérer à faire ce régime que... je suis pas là pour vous parler de régime, je suis simplement là pour vous montrer qu'il faut être persévérant. Alors, qu'est-ce que je préconise? Ben, 2-3 minutes chaque jour pour commencer. Hein, vous vous calmez, vous vous relaxez... Quand on est stressé, nos muscles sont tendus. Alors détendez-les. Ça, c'est dans votre pouvoir. Hein? Étendez-vous et détendez-vous. Étendez-vous. Les nerfs, ils sont étroitement liés aux muscles. Ben, maîtrisez-les. Comment? Eh ben, déjà, d'abord, en faisant ce que vous pouvez, c'est-à-dire en détendant vos muscles consciemment. Plutôt que de serrer les poings, ouvrez vos mains. Hein? Vous les ouvrez, voilà. Vous vous détendez consciemment, vous détendez consciemment vos muscles. En faisant ça, vous allez atteindre vos nerfs qui sont intimement liés à vos muscles. Et vous atteindrez quoi? Vos émotions? Parce que vos émotions sont intimement liées à vos nerfs. C'est pas pour rien qu'on dit on est énervé. D'abord, on ne devrait pas dire on est énervé, parce que ça veut dire qu'on n'a plus de nerfs quand on dit on est énervé. Mais ça a à voir avec les nerfs. Les nerfs ont à voir avec les muscles. Touchez ce que vous pouvez toucher. Déjà, une position tranquille. Vos émotions sont provoquées par votre système nerveux. J'espère que vous croyez ça. Alors, tout ce petit monde, les muscles, les nerfs, les émotions, ça va être sous votre contrôle simplement parce que vous avez décidé de vous détendre un moment. Là, vous vous calmez, vous vous attendez bien tranquillement et votre esprit va pouvoir agir maintenant. Pourquoi je vous enseigne de vous allonger? Ben parce que personnellement, la position agenouillée me crispe. Ça réveille des vieilles douleurs et je pense beaucoup plus à mes genoux qu'à Jésus quand je suis à genoux. Ça c'est moi, hein. Vous, si vous êtes très bien à genoux, c'est super, faites comme vous voulez. Moi, je préfère m'allonger, je peux mieux me détendre quand je suis allongé. J'ai remarqué même, je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, quand je suis au lit, pour m'endormir, je ne me mets pas à genoux dans mon lit. Hein, je m'étends, je m'allonge, jamais je m'agenouille dans mon lit pour trouver le sommeil. Donc, à mon avis, hein, c'est juste mon avis, comme disait l'apôtre Paul, c'est pas moi, c'est pas Dieu qui parle, c'est moi. C'est moi qui dis, c'est mieux quand on est allongé. C'est mieux quand on est... Alors, s'allonger, ça nous permet la détente, ça nous permet d'entrer dans le sommeil, vous êtes d'accord? Alors, au fait, savez-vous d'où vient le mot sommeil? Ça vient du grec. Vous voulez que je vous dise d'où vient le mot sommeil dans le grec? Attention, tenez-vous bien. Ça vient du grec hypno. Le mot hypno, ça veut dire sommeil. Alors, vous allez dire que je suis un hypnotiseur. Non, du tout pas, je vous en prie. Je suis en train simplement de vous enseigner des choses pour vous faire comprendre. Quand vous êtes dans le sommeil, quand vous êtes dans l'hypno, je vous charrie un peu. Quand vous êtes dans le sommeil, seul votre esprit, la vie, continue d'agir et régule votre digestion, votre respiration, votre thermostat interne, etc. C'est votre esprit qui fait tout ça, c'est votre vie, votre conscience n'est plus en fonction là. Hein? Alors, sans aller jusqu'à l'hypnose, des charlatans, allons jusque à la détente, jusqu'au repos, jusqu'au Shabbat. Hein? Entrer dans mon Shabbat, c'est-à-dire entrer dans mon repos. Dieu n'est pas un excité. Pourquoi est-ce que ces enfants seraient désexcités? Pourquoi il faudrait hurler et courir dans tous les sens? Non, calme, calme et la confiance. Alors allons jusqu'à la détente, jusqu'au repos, jusqu'au Shabbat de Dieu, jusqu'au point où, consciemment, nous pouvons être calmes et confiants. Calmes et confiants pour nous adresser à notre esprit, pour être spirituel. Pour nous adresser à notre esprit qui est cette parcelle divine qui est en nous. Je voudrais même dire que à cette parcelle qui est nous de toute éternité. Alors, pour que notre volonté soit agissante et efficace, hein, je vous ai dit, il suffit pas de vouloir, ce serait simple s'il suffisait de vouloir. Mais non, c'est pas comme ça. Pour que ce qu'on veuille arrive, il faut que notre volonté arrive à croire que tout est spirituel et pas charnel. C'est pourquoi c'est écrit, c'est pas par la force de tes chevaux, l'air, c'est par mon esprit. Hein. Ben c'est la même chose, c'est par ton esprit aussi que les choses. Mais c'est pas par ta force, non, c'est par l'esprit. Pouvoir le croire, pour pouvoir croire ça, on a besoin d'humilité parce qu'on voudrait toujours faire par nous-mêmes. Non, c'est pas comme ça. Il faut de l'humilité pour pouvoir croire ça, il faut s'abaisser. Et le meilleur moyen pour s'abaisser, c'est d'entrer dans le repos. Dire, Seigneur, je me repose sur toi. Mon esprit est en communion avec ton esprit. Je me repose. Quand votre conscience accepte ce repos, de lâcher prise, quand il accepte que l'esprit prenne les commandes, alors, les solutions peuvent survenir. Alors, les montagnes vont se jeter dans la mer. Alors, les exaucements de prières arrivent. Parce que votre foi, votre foi est agissante dans le repos. Et votre foi ne se repose plus simplement sur la compréhension logique des Écritures. Ça, c'est encore de l'intellectualisme. C'est encore une foi intellectuelle. Mais votre foi va commencer à reposer sur la vie, sur la lumière, sur la vie, sur l'énergie, sur la vie. C'est l'esprit qui vivifie. C'est pas les mots que nous comprenons. Il faut qu'on comprenne, bien sûr. D'abord, au départ, faut qu'on comprenne. Faut qu'on comprenne que Dieu nous aime, qu'il veut pas notre mal. Il faut comprendre toutes ces choses. À partir du moment où on a compris et intégré ces vérités, alors on peut commencer à déclencher des miracles au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rentrant dans le calme et la confiance. Mais c'est pas si simple. Il faut s'y attarder pour l'intégrer. Il faut persévérer dans ces exercices spirituels. Il faut pas abandonner parce qu'on a eu un échec ou voilà. Il faut persévérer. Vous savez que ce mot est dans toute la Bible, persévérer. Alors je vous en dirai un peu plus vendredi prochain, Dieu voulant, vous expliquant comment, à partir du moment où vous êtes dans le calme et la confiance, les choses que vous voulez commencent à se manifester parce qu'elles sont d'ordre spirituel. Que Dieu vous bénisse. Réécoutez ce message. Pensez-y. Commencez à mettre en pratique le peu de choses que je vous ai enseignées là. Faites-le et vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez comprendre pourquoi il est dit là. Je vous le dis, quiconque dira cette montagne, enlève-toi de là et va te jeter dans la mer. S'il ne doute pas dans son cœur, c'est-à-dire s'il est calme, hein, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, s'il croit que ce qu'il dit, ça arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus, garde mes frères et sœurs dans la paix, qu'ils ne se troublent pas, que leur cœur ne se trouble pas, mais qu'ils mettent ces choses en pratique afin de comprendre, de voir spirituellement ce que ces mots qui sont inscrits dans leur Bible signifient. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen.